Philippe Bouvard est avec vous sur RTL dans Allô, ici Bouvard, jusqu'à midi. Et je dis bonjour Philippe.
Bonjour Virginie, bonjour vous tous. Et bonjour particulièrement à ceux qui vont nous soutenir, alors que nous allons traiter des sujets nouveaux, mais que l'actualité impose.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
On aurait tort de penser que le secrétaire d'État chargé du tourisme est parfaitement heureux. Certes, bon, il y a 90 millions de touristes qui sont venus en France. On est les champions du monde. Il y en aura peut-être 100 millions l'année prochaine. Mais ça ne saurait suffire à son bonheur. Je parle sous votre contrôle, Jean-Baptiste Lemoine.
Bonjour. Bah, écoutez, nous sommes... très heureux néanmoins de ces bonnes performances. Une année 2018 qui s'annonce record. Vous l'avez dit vous-même, nous étions champions du monde en 2017 en termes de fréquentation et nous le serons vraisemblablement, je touche du bois, en 2018 avec ces 90 millions de touristes internationaux. Mais vous avez raison, gouverner c'est prévoir. Et donc moi je souhaite également anticiper parce que on voit que lorsque il y a de plus en plus de touristes internationaux, parfois il y a la concentration de ces flux sur certains sites. Et on a vu combien parfois à Barcelone, à Venise, et maintenant dans quelques destinations françaises, cela pouvait générer parfois des réactions. Et donc il faut s'attaquer à ce problème-là.
Alors si vous me permettez un exemple qui n'est pas de chez nous, c'est le syndrome de Venise.
Exactement, c'est tout à fait ça. Et par exemple, vous voyez, j'étais il y a quelques jours à Annecy, à la rencontre des hôteliers et restaurateurs indépendants, et le maire de la station me signalait que sur la saison estivale, il y avait une concentration très importante qu'il pouvait presque assimiler à du surtourisme et que eh bien, la population avait un certain nombre de conséquences négatives. Et donc, il est important de pouvoir travailler sur une meilleure répartition des flux touristiques sur l'ensemble du territoire.
Parce qu'il y a des lieux qui sont saturés et d'autres qui sont méconnus. Et ce n'est pas toujours juste. Hein. Cela dit, est-ce qu'on peut réorienter un tel flux touristique? Est-ce qu'on peut persuader des Chinois d'aller passer leurs vacances sur le plateau du Larzac plutôt qu'à Cannes ou à Saint-Tropez?
Et là, tout à fait. Ça passe par plusieurs éléments. D'une part, il faut que nous créions plus de lignes directes aériennes entre les grandes villes françaises et les grandes villes internationales. Je vous prends l'exemple de Marseille, par exemple, qui souhaiterait pouvoir mettre en place plus de lignes directes avec Saint-Pétersbourg, parce que la Russie, comme la Chine, comme l'Inde, émettent de plus en plus de touristes internationaux qui, en plus, dépensent volontiers de l'argent sur notre territoire. Et donc, on a ce besoin d'ouvrir de nouvelles lignes vers nos métropoles de région pour que ça irrigue plus facilement les régions et nos territoires ruraux. Et puis, par ailleurs, il y a un deuxième aspect, c'est travailler sur différents segments du tourisme. Je m'explique. Vous le savez, la Bourgogne est chère à mon cœur. J'ai été sénateur de Lyon, sénateur de Chablis. Bon, eh bien, l'œnotourisme, par exemple. Très concrètement, il y a une demande de nos amis du sud-est asiatique pour découvrir nos vins, les produits de nos terroirs. En valorisant l'œnotourisme, eh bien, on peut faire découvrir...
Permettez-moi de vous rappeler que dans une interview, vous avez déploré qu'on ne passe pas plus de temps à visiter les châteaux de la Loire. Mais est-ce qu'il y a assez d'hôtels dans cette province pour accueillir tous les touristes qui sont demandeurs?
Alors, nous avons l'ambition à la fois de préserver, de maintenir le tissu hôtelier, parce que très clairement, il faut investir pour avoir des hôtels peut-être...
Il y a 800 hôtels qui ont fermé cette année, hein.
Tout à fait. Vous pointez un vrai sujet parce que certains hôtels parfois n'avaient pas forcément la taille critique et donc nous avons décidé de doubler par exemple les prêts hôtellerie que met en place la Banque publique d'investissement pour pouvoir accompagner les hôteliers à investir. Et puis il faut dire qu'il y a également d'autres solutions d'hébergement connaissent un succès.
Il y a de la concurrence.
Je pense tout simplement aux meublés de tourisme. On le voit, alors c'est vrai, ça fait polémique. La mise en location à travers les plateformes internet de ces logements est quand même une réponse, notamment au secteur rural où l'hôtellerie indépendante, parfois, a disparu. Et donc, c'est pour ça que moi, mon message, c'était de dire d'ailleurs aux hôteliers comme aux plateformes que il fallait pas s'opposer les uns les autres, que en fait, il y avait des complémentarités à explorer. J'ai pris mon casque bleu, vous voyez, pour les mettre autour de la table. Et puis, je veux signaler que nous avons aussi une montée en gamme des campings, et l'hôtellerie de plein air se porte bien. Nous avons pris des mesures récemment pour les aider à conforter, à monter en gamme leurs établissements, et de plus en plus, eh bien, ils rencontrent un succès croissant.
Est-ce que votre souhait, ce serait qu'il y ait un peu moins de monde sur la Tour Eiffel ou au château de Versailles et davantage dans une province méconnue?
Mon souhait, c'est que tout le monde tire son épingle du jeu en matière de tourisme, que la Tour Eiffel continue à connaître le succès qui est le sien, mais on le voit, elle atteint aussi des limites, et par ailleurs, que l'on puisse avoir toujours plus de monde dans des sites comme Vézelay, comme l'abbaye de Fontenay, vous parliez des châteaux de la Loire ou autres. C'est vrai que la France a un patrimoine formidable, c'est pas notre ami Stéphane Bern qui dirait l'inverse, et ce patrimoine mérite d'être toujours plus connu et reconnu. C'est vrai que un certain nombre de sites emblématiques sont les premiers à être visités, mais je sais que les régions font un gros travail pour favoriser la connaissance de leur patrimoine, de leur destination. Et vous savez, nous les accompagnons à l'international, nous avons signé ce qu'on appelle des contrats de destination, et c'est ainsi que nous pouvons valoriser Biarritz autour du Golfe, que nous pouvons valoriser la Bretagne, et donc on espère ainsi faire en sorte que les touristes d'eux-mêmes aillent découvrir, sortent des sentiers battus.
Enfin, dernière question que je pose depuis plusieurs années à vos homologues. Quand l'étalement des vacances, promis aux Français, mais aussi aux touristes qui viennent chez nous, quand cet étalement des vacances sera-t-il réalisé? Quand les vacances seront-elles en juillet et pas seulement en août?
Alors, il faut voir que il y a une évolution de la façon dont on voyage et dont on prend ses vacances. On s'en souvient, il y a 20 ans, 30 ans, le mois de juillet et le mois d'août étaient tous les deux sacrés, si je puis dire. Aujourd'hui, on le voit, les gens partent plus souvent, mais moins longtemps. Et donc, on voit que la saison estivale a tendance à se concentrer entre le 20 juillet et le 20 août. Mais les gens, après, repartent. Et d'ailleurs, regardez, en ce moment, on vit un peu une sorte d'été indien. Le mois de septembre, le mois d'octobre ont été des mois relativement beaux, et donc propices à des week-ends, à des courts séjours qui entretiennent eux aussi...
c'est le dérèglement climatique, hein.
Il y a des phénomènes exceptionnels, naturellement, et d'ailleurs on s'associe à nos amis de l'Aude qui ont été durement touchés, mais très clairement, je crois que les gens partent plus souvent, et d'ailleurs on a un enjeu, parce qu'on a aussi du tourisme à faire vivre l'hiver, hein, le tourisme de montagne, et vous savez qu'on s'est fait, de ce point de vue-là, chipper la première place par l'Autriche. Je crois qu'il est important qu'on puisse d'ailleurs remettre nos chères têtes blondes sur des skis. Vous savez que la République tchèque, par exemple, ils ont mis les classes découvertes de ski obligatoires. Eh bien, j'en ai parlé avec Jean-Michel Blanquer, je pense qu'on a besoin aussi de remettre en France un certain nombre de classes vertes, de classes découvertes, pour que le ski, la montagne, soient aussi des réflexes qui reviennent dans nos réflexes de vacances.
Merci, monsieur Lemoine, et je vous souhaite de bonnes vacances, quand vous pourrez en prendre.
Oui, là, c'est au travail, c'est la consigne du président, et voilà, au service des Français. Merci beaucoup.
Merci.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Je pense que le remplacement de la patinette par la trottinette ne vous a pas échappé. C'est à la fois un phénomène de société et quelque chose qui change parfois la physionomie de nos rues, et j'ajouterais, parce que c'est le plus dangereux, de nos trottoirs. Alors, pour en parler, il y a déjà des spécialistes. Ces spécialistes, ils disposent déjà d'un vocabulaire adapté. Bonjour, monsieur Jean Ambert.
Bonjour, monsieur Bouvard.
Alors, je salue en vous un spécialiste de la micro-mobilité. Mais je sais qu'il existe une autre formule déjà, ce sont les engins de déplacement personnel. Vous préférez la micro-mobilité?
Oh, en fait, les deux vont très bien. En fait, les engins de déplacement personnel ont le mérite d'être assez clairs, à savoir qu'on se déplace directement par soi-même avec un engin qui est juste une extension. Et la micro-mobilité intègre l'ensemble des outils et des engins. Ça va être aussi bien la trottinette électrique, le skateboard électrique, par exemple, les gyropodes, les overboards, tout ce qui
À l'origine, il y avait quand même le patin à roulettes avant qu'on le rebaptise roller. Hein.
Exactement.
Alors aujourd'hui, la trottinette a fait comme la voiture, enfin même mieux que la voiture, elle s'est électrifiée. Alors, la vitesse admise pour ce nouveau mode de transport ?
On fixe la limite à 25 km/h. Hein, donc, en cela, c'est une vitesse au-delà de laquelle, c'est vrai que.
Or, je me suis laissé dire qu'il y avait des engins qui pouvaient rouler à 40 km à l'heure. Hein.
Même, je vous dirais, M. Bouvard, jusqu'à 40, 45, voire plus. Mais en même temps, dans très peu de temps, avec les nouvelles normes qui sont en cours de préparation, même au niveau européen et français, ces engins ne pourront plus circuler sur une voie publique et uniquement sur des voies privatives dès lors que ces engins ne pourront pas être homologués et immatriculés.
Est-ce que finalement la vitesse de référence idéale n'est pas celle du piéton ?
Alors, sur le trottoir, effectivement, alors la vitesse qui est accordée sur les trottoirs est de 6 km/h.
Est-ce que les assureurs qui en sont encore, mais on les comprend, ils ont le temps à chercher un contrat idéal pour la voiture autonome, ont déjà trouvé le contrat pour la trottinette électrique ?
Oui, bon, en tout cas, il y a un certain nombre d'assureurs ont déjà constitué des offres qui vont dans ce sens.
Le casque est conseillé en attendant d'être obligatoire ?
On dirait fortement conseillé, parce qu'on on pense que si le casque devenait obligatoire, ça freinerait vraiment la filière dans son intégralité, et on peut aussi accorder le fait de la pertinence, de la justesse de chacun, mais en même temps, je suis persuadé que le bon sens finira par l'emporter.
Enfin, le bon sens à condition qu'il ne soit pas interdit. Merci, Monsieur Ambert.
Exactement.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Alors la question est posée, la réponse viendra avant les fêtes. Le jouet est-il vraiment en crise ? Il y a pour l'instant une présomption de réponse affirmative parce que les deux principaux distributeurs doivent faire face à un redressement judiciaire et parce que le commerce en ligne, l'e-commerce comme on dit, est en train de remplacer le commerce en boutique et que ça induit de nouveaux circuits mais ça induit aussi des marges qui ne cessent de s'effriter. Alors c'est bon pour le consommateur dont je vous rappelle d'ailleurs que si les pères de famille, ils consacrent, mais ce sont les statistiques qu'ils disent, les gosses ne confirment pas, ils consacrent 300 euros par an aux jouets de sa marmaille et aujourd'hui, il doit faire face à des jouets de plus en plus coûteux et à cette concurrence du e-commerce qui ne s'embarrasse pas de boutiques et donc de loyers et qui peut vendre sinon à perte, au moins presque à prix coûtant. Voilà. Alors aujourd'hui, il y a une tendance qui commence à se dessiner. Ce sont les nouveaux jouets. Et c'est important de définir cette tendance parce que les commerçants spécialisés doivent acheter cash. C'est-à-dire ils doivent sentir ce qui va être demandé par les clients et l'acheter sans attendre que la commande soit confirmée. Donc ils prennent un risque. on note un recul de 2% déjà. Mais là, il faut en accuser la Coupe du Monde qui a mobilisé une partie des fonds que les parents et les autres, parce que tout le monde concourt au bonheur des enfants, consacraient à l'achat des jouets. Il y a eu beaucoup de jeux inspirés par cette Coupe du Monde et ben, ça a diminué un peu les 300 euros qu'on investit, selon la statistique, dans le plaisir des chères têtes blondes. Autrement, il y a toujours des jeux connectés. Bon, et ça confirme que le robot, non seulement est en train de se tailler une place dans le monde du travail, peut-être au détriment des travailleurs en chair et en os, on verra ça rapidement, mais encore qu'il s'impose dans l'univers des petits. Voilà. Mais enfin, je vous souhaite quand même que le Père Noël ne vous oublie pas. Peut-être qu'il aura une concurrence sérieuse, le Père Noël, parce qu'alors, il y a une Mère Noël qui s'appelle Amazon et qui, elle, est en train de rafler toute la distribution, enfin, une grande partie. On regrette de ne plus jouer comme avant, parce que au lieu d'avoir des jeux sommaires, des constructions avec des bouts de bois ou des mécanos antédiluviens, on aurait la fine fleur du progrès technique.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Pourquoi l'homme ne grandit-il plus ? Bon, alors qu'il fait tellement de progrès dans tous les domaines, et encore faut-il considérer qu'une taille supérieure constituerait un progrès. Mais bon, les escabeaux ne sont pas faits pour les chiens et les gens de petite taille, voyez Napoléon, ne réussissent pas mal dans la vie. Alors je vais demander son avis à un spécialiste. Bonjour, monsieur Jean-François Toussaint, professeur de physiologie à l'université de Paris-Descartes. Alors, c'est une notion que nous découvrons, mais qui vous est familière. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus espérer quelques centimètres supplémentaires ?
Oh, il y a bien encore quelques millimètres à mettre dans l'escarcelle. On voit qu'effectivement, quand on remonte vers le passé, on a, sur le siècle dernier, globalement, pris 15 cm pour les hommes comme pour les femmes. Hein. On arrive à 1,75 m en France pour les hommes, 1,60 m pour les femmes. Et que cette augmentation de la taille, en fait, elle résulte de plusieurs facteurs. Et c'est cela qu'on étudie pour voir comment cette évolution peut se faire ou ne plus se faire.
Pourquoi le général de Gaulle était-il aussi grand ? Parce qu'il mesurait 1,96 m et avec le képi, ça faisait 2 m. Hein ?
Absolument. Et d'ailleurs, le général de Gaulle avait exactement la taille du Usain Bolt. Donc c'est une forme particulière, probablement, pour reconnaître parmi ceux-là les plus grands et les plus renommés. Mais en fait, ce que l'on voit, c'est que la taille, comme la plupart de ces indicateurs, est un compromis. Et c'est en fait le résultat à la fois des prédispositions, donc essentiellement de la génétique. Et puis on a surtout ce que l'environnement permet de développer de cette taille. Et ça, c'est l'alimentation avant tout, l'alimentation pendant la période embryonnaire, fœtale, l'enfance et l'adolescence. Et puis, c'est aussi les conditions qui, par exemple, vous ont fait éviter de rencontrer des maladies infectieuses, maladies infantiles, et qui donc vous ont permis de développer l'ensemble de votre potentiel. Et quand on arrive au maximum, ce que semble montrer l'humanité actuellement, eh bien, on a l'impression que nous ne toucherons pas le ciel comme d'autres arbres ont tenté de le faire. Mais dans le vivant, on a des exemples de plus de 100 mètres de haut. Ce n'est probablement pas ce que l'espèce humaine peut attendre.
Quelles sont les données qui vous permettent d'expliquer que la taille est atteint un plafond ?
Ce qui joue sur la taille et ce que l'on trouve actuellement, c'est principalement que sur cette période du 19e et du 20e siècle, les gains ont été constants et parallèles à ceux du développement économique dans les pays développés d'abord, européens, nord-américains, puis les pays en développement, puis les pays émergents maintenant. On a cette fonction que l'on mesure partout dès que la nutrition, une fois de plus, l'alimentation par individu augmente, s'améliore, l'hygiène également. Et donc, on a des effets qui vont montrer cette croissance. Et puis, depuis une génération globalement, on voit qu'à peu près partout, les pays s'arrêtent, les États-Unis depuis 30 ans, les Pays-Bas,
la Lettonie. Est-ce qu'on peut incriminer les habitudes alimentaires?
Oui, les habitudes alimentaires, mais essentiellement sur la quantité de nutrition, comme je le disais, sur les tout premiers âges du développement. Et de fait, ce que l'on voit, c'est que certains pays régressent, c'est le cas de l'Égypte, et on n'est pas surpris de voir que l'Égypte, qui commence une régression de la taille, est connue il y a 10 ans, les émeutes de la faim en 2008, et donc on voit bien qu'il y a un lien là entre la capacité d'un pays à apporter une ration alimentaire pour chacun de ses habitants et la taille à l'âge adulte, qui est un intégrateur de l'ensemble de ces conditions.
Merci Jean-François Toussaint. Merci monsieur le professeur.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Et le mot de la semaine, me direz-vous? Eh bien, j'y pense. Et il est là, comme chaque semaine, parce que les lexicographes ne chôment pas. Et chaque fois qu'il y a un nouveau phénomène, une nouvelle tendance, eh bien, ils inventent le mot qui servira à la qualifier. Alors, par exemple, le mot de la semaine, c'est le dégagisme. Et le dégagisme, bon, évidemment, il faut remonter au cours de récréation avec la fameuse formule « dégage minable », mais c'est une formule qui a trouvé ses lettres de noblesse avec M. Mélenchon. L'incontournable M. Mélenchon, oui. Alors, M. Mélenchon a eu l'idée de prendre le verbe « dégager ». Il a d'ailleurs lui-même l'air très dégagé. Mais pour lui, le dégagisme, c'est le fait de mettre au rancard tous les politiciens qui ont servi sous d'autres régimes. C'est un phénomène qui peut s'appliquer à toutes les couches de la société. Par exemple, les jeunes journalistes peuvent souhaiter que les vieux chroniqueurs s'éloignent et leur laissent la place. Enfin, vous me permettrez de ne pas insister sur ce sujet.
Et c'est terminé pour aujourd'hui, Philippe Bouvard. On se dit à dimanche prochain, 11h30, pour un nouveau numéro d'Allô, ici Bouvard.
Oui, mais je vais dégager, je vais y être tranquille.
Je n'ai pas osé vous la faire.
À dimanche prochain.
À dimanche, dans un instant, votre rendez-vous politique du week-end sur RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI, dont l'invité est Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Mais avant, il est midi.